Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. Vous écoutez l'Arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, veille du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Deux interviews, d'abord pour parler du spectacle Héroïne sur les femmes et l'agriculture avec Anne-Cécile Richard, puis pour présenter un livre, Retour sur l'expérience collective menée au timbre de Maurepas. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, la recommandation du jour, le festival Réel, et puis la chronique de la CIMADE. Bienvenue dans l'Arène. Chaque jour, c'est la même chose. On commence cette émission avec l'info du jour, choisie pour vous dans les médias locaux. Aujourd'hui, on annonce la journée de demain. On prend un tout petit peu d'avance pour annoncer le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. À cette occasion, la ville de Rennes a concocté un programme, 70 événements, des rencontres, conférences, spectacles, visites, mais aussi expositions. Tout ça, c'est à vivre dans la région rennaise jusqu'au 21 mars. Et on retrouve de nombreux partenaires, qu'ils soient engagés dans les luttes féministes, mais aussi issus de plein d'autres secteurs. On en cite quelques-uns. Il y a évidemment l'ASFAD, association qui accompagne des femmes victimes de violences. On retrouve des MJC, ces maisons des jeunes et de la culture, des établissements de l'enseignement supérieur, des bibliothèques et maisons de quartier, ou encore le CRIDEV et Comptoir du Doc. Le mieux, c'est d'aller retrouver le programme complet en ligne sur métropole.rennes.fr. Et il se passe pas mal de choses ce week-end avec pêle-mêle, une cérémonie à l'hôtel de ville en compagnie de l'historienne Michèle Perrault. Ça, c'est vendredi à 18h. Un temps fort samedi 9 de 13 à 18h sur la place de la mairie autour de l'universalité des luttes des femmes pour leurs droits. Il y aura un karaoké spécial matrimoine au Jardin Moderne en soirée et une lecture théâtralisée autour des femmes extraordinaires oubliées. Ça c'est dimanche à 16h30 à la MIR, la Maison Internationale de Rennes. Allez, après cette info, on passe à la première interview du jour.
Moi, j'étais agricultrice, hein, toujours. Agricultrice, je suis née dans la terre.
Je suis venue travailler avec mon mari à la ferme. Moi, je suis agricultrice.
Agricultrice, chef d'exploitation.
Anne-Cécile Richard, bonjour.
Bonjour Lucie.
Je vous présente, vous êtes comédienne, metteuse en scène et membre de la compagnie On t'a vu sur la pointe qui est installée dans le Morbihan. On vous retrouve dans la programmation de Rennes, Ville et Métropole avec deux propositions vendredi 8 et samedi 9 mars du côté de Champy. Votre compagnie, elle a été créée il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, c'était en 2013. On en redit un mot sur cette compagnie, vous êtes combien déjà ?
Alors, on est deux à la direction artistique, un régisseur technique qui travaille pour tous nos spectacles, et puis une chargée d'administration et de production aux gesticulteurs, et un président qui est très présent et très actif pour tous les projets de la compagnie.
Votre truc, c'est le théâtre de marionnettes documentaire. Vous avez créé plusieurs spectacles, certains pour le jeune public, d'autres plutôt pour adultes. Il y a quand même souvent ces questions de mémoire qui reviennent et que vous explorez. C'est un peu votre intérêt principal ?
Tout à fait. C'est explorer les mémoires collectives, l'histoire avec un grand H, et pour tenter de comprendre l'histoire des gens et être au plus près en fait, des gens qui travaillent, vivent, habitent des territoires.
Héroïne, c'est le spectacle que le public découvrira vendredi 8 mars à Champy. Ça commence à 20h30 et je peux même préciser, ça se passe au complexe des Deux Ruisseaux, donc sur la commune de Champy. Un spectacle que, voilà, il se trouve que je l'avais vu avec ma grand-mère agricultrice qui est désormais à la retraite à La Paillette en 2019. Ça veut dire que ça tourne depuis un petit moment, ce spectacle.
Oui, il a été créé en 2017 à l'issue d'une résidence de 3 ans dans une maison de retraite en milieu rural. C'était à Guémené-Pinfaux, en Loire-Atlantique. Et depuis 2017, il a bien tourné, partout en France d'ailleurs. Et c'est vrai que ce sujet intéresse beaucoup en général.
Dans ce spectacle de théâtre documentaire et d'objets, vous nous parlez des femmes dans le monde agricole, des femmes qui ont toujours été présentes dans l'histoire, mais souvent invisibilisées. C'est l'idée principale que vous déroulez.
C'est ça, on a rencontré beaucoup de femmes à la retraite qui nous ont raconté leurs conditions d'existence, leur absence de statut professionnel, et on s'est renseigné pour comprendre en fait la lente évolution de ce statut, la lente acquisition de droits. Faut savoir que les femmes agricultrices ont un congé maternité qui ressemble à celui des travailleuses françaises depuis 2019 seulement. Elles peuvent être chefs d'exploitation à part entière, au même titre qu'un homme, depuis 2010. Donc tout ça, c'est assez incroyable. Et on n'est pas issus du milieu agricole, Antoine Malfette et moi-même. Et donc on a eu envie d'écrire une pièce qui relate l'évolution très tardive de ces droits et qui rend hommage aussi à ces femmes qui ont toujours été présentes, même pendant les guerres, qui ont tenu les fermes, qui ont fait le travail que les hommes faisaient et à qui on a rendu hommage que très tardivement pour leur travail et leur présence.
Une évolution des droits assez lente, mais dans une campagne qui s'est métamorphosée assez rapidement au cours du XXe siècle avec l'arrivée des routes, du téléphone, de l'eau courante, et puis du tracteur et du remembrement, avec des progrès technologiques encore plus marqués ces dernières années. Pour l'écriture de ce spectacle, il y a deux ouvrages finalement assez récents dont vous vous êtes inspiré.
On s'est intéressé à La masure de ma mère, qui est le témoignage d'une fille d'agricultrice qui raconte le départ de sa mère, en fait, comme fille de ferme à l'âge de 11 ans, ce qui était très fréquent au siècle dernier. On s'est inspiré aussi de La nappe blanche pour le récit, pour la forme du récit, qui est l'histoire d'une nappe qui se transmet de femme en femme, de génération en génération. Ce dernier recueil est de Françoise Legendre. Le premier, La masure de ma mère, est de Janine Ogor. Et ce sont deux ouvrages qui nous ont inspirés pour l'écriture. Mais au-delà de ça, il y a évidemment le film Les Croquantes. Il y a Corentine, le roman de Madame Bachelot. Il y a Les Sources de Marie-Hélène Lafon. Enfin, il y a énormément d'ouvrages. Il y a aussi la bande dessinée Il est où le patron ? Enfin, voilà, on manque pas d'inspiration pour parler de ce thème.
Vous avez aussi recueilli des paroles en maison de retraite et puis auprès d'agricultrices, des voix qu'on entend sur scène. Est-ce qu'il y en a une qui vous a plus marqué que les autres, ou en tout cas qui aujourd'hui vous inspire encore en la donnant à écouter au public sur scène ?
Tout à fait. Donc il y a les voix des femmes à la maison de retraite qui ont été enregistrées et qui sont diffusées sur scène. Qui sont pleines de sagesse, on va dire, des histoires de vie très fortes, qui semblent loin de nous et pourtant qui sont très proches. Paroles qu'on a voulu confronter à la parole d'agricultrice en activité aujourd'hui. On est une compagnie en milieu rural, donc on est allé rencontrer nos voisines qui ont accepté de témoigner pour le spectacle. Et plus récemment, début 2024, on est allé rencontrer des agricultrices autour du pays de Fougères pour re-questionner en fait autour de cette question des femmes dans l'agriculture, pour voir où en étaient en fait les progrès ou les progrès qu'il reste à faire, évidemment, pour que chacun se sente à sa place et épanoui dans ce métier qui est un métier de passion et d'engagement depuis et de choix depuis peu.
Oui, ce que j'allais dire, ce qu'ils ont en commun, ces témoignages, au-delà des différentes époques dans lesquelles ils s'ancrent, c'est l'engagement professionnel avec une vie quotidienne qui est quand même physique et puis qui est intense, quoi.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Le temps qu'il fait, tu le sais, et tu te protèges des grêles de l'existence. Et tout ce temps, tu t'es perfectionnée dans l'art de la lutte de chaque jour contre les alertes sanitaires, les sécheresses passagères, la persistance des stéréotypes sexistes. Je peux parler au patron ?
Héroïne.
Alors j'ajouterai un S à héroïne. Parce que vous êtes très nombreuses, et de plus en plus nombreuses à faire ce choix. Agricultrice,
Ce spectacle-là, il est rejoué après une forte mobilisation agricole en début d'année. Les femmes représentent aujourd'hui 26% des chefs d'exploitation agricole et pourtant, on les a peu vues à la télévision. Je lisais un article de Clémentine Comer, qui est une sociologue rennaise, qui explique que le secteur agricole continue à se représenter au masculin alors que les femmes sont de plus en plus présentes dans les arènes décisionnelles. Ce mouvement, vous l'avez forcément regardé avec un regard particulier avec ce spectacle que vous avez créé.
Tout à fait. Et puis, début janvier, on est allé aussi rencontrer des femmes agricultrices. Donc, c'est surtout qui sont aussi tout à fait concernées par les questions qui sont soulevées par ce mouvement. J'ai pas de réponse quant à la sous-représentation des femmes dans les médias, mais c'est vrai que c'est une question très importante puisque pour que les femmes se projettent dans ce métier, dans ces professions, surtout les jeunes générations, il faut qu'elles se voient représentées en fait, c'est la clé. Pour se sentir à sa place, il faut se voir représenté, enfin, il faut avoir des modèles, quoi.
Je voulais aussi vous demander ce que ce spectacle qui a été beaucoup joué en France faisait naître parmi les agricultrices ou peut-être filles et fils d'agricultrices qui sont dans le public. Ça amène à lancer quoi comme conversation? Il est peut-être question aussi des rôles genrés au sein des fermes. Ça a bougé, mais il y a toujours des rôles assez genrés dans les fermes aujourd'hui.
C'est ça, en fait. C'est d'ailleurs problématique. Beaucoup de femmes pensent qu'il faut poser la question de la répartition des tâches et que ça soit un choix et que ça soit discuté et rediscuté, que ça soit pas de fait. Mais ça, ça va prendre du temps, je pense. Enfin, selon les femmes que j'ai rencontrées. Mais c'est vrai que c'est essentiel, oui.
À côté des médias traditionnels, puisque j'ai évoqué un peu la faible représentation des femmes agricultrices dans la mobilisation sociale encore récente, il y a beaucoup d'auteurs qui s'emparent du sujet des femmes dans le monde agricole à travers des bandes dessinées, des podcasts, des documentaires, des spectacles comme le vôtre. Vous avez cité quelques-unes des références, mais depuis le spectacle, il y a encore beaucoup de choses qui se sont créées. Quel est votre regard là-dessus ?
Bah, je trouve ça très bien en fait de parler des choses, de pas laisser des tabous. Enfin, parce que plus on en parle, et plus les choses évoluent. En fait, c'est ce qu'on essaye de faire, même si ça a l'air de rien. Peut-être que de fil en aiguille, les mentalités vont changer. Et je pense que une agricultrice me disait que c'était au niveau de la formation surtout qu'il fallait agir. Effectivement. Parce que c'est des métiers très prenants. Et quand on commence, après, elle disait, on a la tête dans le guidon. Donc, effectivement, les moyens d'action sont quand même beaucoup auprès des jeunes générations. Et c'est là, je pense qu'il serait bien d'intervenir pour faire changer les clichés, les stéréotypes. Et pour faire évoluer les choses. Ouais.
On vous retrouve donc au complexe des Deux Ruisseaux à Champy vendredi 8 mars à partir de 20h30 où vous jouerez ce seul en scène héroïne. Peut-être juste ajouter un mot sur le dispositif scénique. Il y a des voix, il y a une table, il y a une nappe et puis des images aussi qui s'invitent tout au long de ce spectacle.
Oui, il y a aussi des portraits photographiques. On a créé une généalogie de femmes pour pouvoir remonter le temps et raconter l'histoire d'aujourd'hui jusqu'au XXe siècle. Et avec ces portraits, je les manipule, je les fais vivre. Et ça convoque les personnages de l'histoire. C'est une façon de peupler le plateau au-delà de la présence d'une voix de la comédienne. Voilà.
Avec de nombreuses voix donc d'agricultrices. Et le lendemain, samedi 9, on vous retrouvera lors d'un atelier mémoire avec les résidents d'un pôle gériatrique, si j'ai bien compris. Toujours à Champy, vous allez en fait prolonger le spectacle et l'amener à un public qui peut pas forcément venir en salle en fait.
C'est l'idée, c'est aussi de présenter des extraits du spectacle, de lire des extraits d'œuvres autour du thème des femmes dans l'agriculture et puis de faire surgir des témoignages parmi l'assemblée en fait qui se reconnaît et qui raconte comme les femmes d'héroïne en fait leur vie et qui partagent ces tranches d'existence avec leurs enfants, leurs petits-enfants et c'est le but, oui.
Anne-Cécile Richard, je vous représente. Vous êtes comédienne, metteuse en scène et puis membre de la compagnie On t'a vu sur la pointe, une compagnie morbihannaise. On vous retrouve donc dans la programmation de Rennes, ville et métropole autour de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes du 8 mars, avec donc deux propositions, vendredi 8 et samedi 9 mars à Chantepie. Pour le spectacle de vendredi, l'entrée est gratuite, mais il faut penser à réserver sa place. Tout le détail de ces spectacles et de la programmation est à retrouver en ligne sur metropole.rennes.fr. D'autres dates sont par ailleurs prévues pour le spectacle Héroïne et pour d'autres de vos créations. Le mieux, c'est d'aller sur le site On t'a vu sur lapointe.com. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. J'avais un proverbe qu'une agricultrice m'avait donné, que je trouve très beau. Je peux vous le dire si vous voulez ?
Bien sûr.
Alors, elle me disait « Un cheveu de femme tire plus que 30 paires de bœufs ». Et je trouvais ce proverbe très beau parce que le cheveu représente à la fois la force et la fragilité d'une femme. Et puis, il y a aussi... une voisine à moi qui me disait, en parlant du temps passé, on durait bien. Et je trouve que c'est très, très évocateur. Je veux dire, on durait bien.
Et après, ben, si tu sais qu'il fallait le recharger dans des charrettes. Et après, il fallait le monter dans les greniers.
Parce que moi, je m'apercevais que c'était trop dur à la ferme. Ça ne pouvait pas. Hein.
Ma patronne m'habillait et puis elle donnait le reste à mes parents. C'était comme ça qu'on te payait autrefois. Travail, je te paierai. Le matin, je me levais à 5 heures pour aller faire la tête, jusqu'à 10-11 heures le soir.
Elle bossait comme un homme, mais ça n'avait être le matin. Une vraie bête de somme, mais ça ne me coûtait rien. La 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 la. Debout la première le matin, ça c'était bien. C'est elle qui commençait la traite. Ça c'était chouette, en se maniant elle faisait boire les veaux. Que ça était beau, avant de s'occuper des enfants. C'était charmant. Elle bossait comme un homme, mais ça l'avait tôt le matin. Une vraie bête de somme, et ça ne me coûtait rien. La 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 la. Elle faisait la comptabilité, sans jamais se tromper. Et elle faisait tous des paplards. J'étais peinard. Elle cultivait un grand jardin. Ça entretient. Lavait des poules et des conserves. Ça conserve. Elle bossait comme un homme, mais ça levait tôt le matin. Une vraie bête de somme, mais ça ne me coûtait rien. La 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 la. Un jour y a un gars qui s'amène. Tiens, qu'est-ce qui vous amène? Bonjour monsieur, c'est un sondage. Ben rentrez, on n'est pas des sauvages. Qu'est-ce que vous faites comme profession? Oh ben c'est ça votre question? Ben moi je suis cultivateur, ma femme elle est sans profession. Furieuse d'entendre ça, elle est partie de la maison. Si je suis sans profession, t'as qu'à te débrouiller, pauvre con. Elle bossait comme un homme, mais ça levait tôt le matin. Une vraie bête de somme, et ça ne lui rapportait rien. La 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 la. Depuis les veaux ont tous la chiasse, c'est dégueulasse. J'ai perdu tous mes lapins, j'ai que des pépins. Je me suis aperçu que sans elle, je suis comme un avion sans aile. Tous les jours je me fais des nouilles, je bouffe la grenouille. Elle bossait comme un homme, mais ça levait tôt le matin. Une vraie bête de somme, mais ça ne me coûtait rien. La 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 la.
Jules Marquard, elle bossait comme un homme sur Canal B. C'était le choix musical d'Anne-Cécile Richard que vous venez d'entendre en interview. Elle a choisi un morceau de 1994 au propos humoristique, vous l'aurez deviné. Jules Marquard qui est musicien et paysan ici en Bretagne. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Vous êtes sans doute branché sur le 94.0 ou peut-être connecté en ligne sur canalb.fr où vous pouvez ensuite retrouver les podcasts de ces émissions, mais aussi tous les programmes réalisés par des salariés et des bénévoles à Canal B. Allez, on continue l'émission avec une deuxième interview. Alexine Malawi, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes chargée de mission révélateur chez TAG 35. Le timbre, une occupation temporaire à Maurepas, c'est le titre d'un ouvrage dont vous avez, on va dire, coordonné la réalisation, mais avec d'autres personnes qui se cachent derrière, on va en parler. Ce livre, il est en pré-vente jusqu'au 19 mars en passant par la plateforme de financement participatif kisskissbankbank.com. Et pour revenir aux présentations, TAG 35, on vous a déjà reçu plusieurs fois, c'est une asso, un incubateur qui est spécialisé dans l'économie sociale et solidaire en Ille-et-Vilaine. Vous êtes installé au Quadri dans le quartier du Blône à Rennes et vous accompagnez des entrepreneurs, mais en fait à différents stades de leur projet.
On accompagne tant des entrepreneurs qui ont déjà leurs idées et qui viennent se structurer et faire en sorte de sortir avec un métier, avec une structure bien prête et un modèle économique assez pérenne pour se financer, en tout cas de l'emploi. Et on accompagne aussi des idées. On a aussi tout un accompagnement autour de l'émergence, passer de l'idée au projet pour déjà savoir ce que c'est qu'entreprendre, comment le faire, avec qui, comment s'entourer. Et on a aussi tout un pan qui s'appelle donc le révélateur, comme vous l'avez bien dit, c'est comment on aide et on accompagne des collectivités et des personnes sur des territoires à formuler des idées de projets économiques, sociaux et solidaires.
En fonction des besoins qui sont identifiés sur le territoire, quoi.
C'est ça. Soit la collectivité a un bâti, là c'est le cas du timbre pour le coup, un bâtiment dont ils ne se servent plus et ils ont envie de l'utiliser de façon positive et de façon ESS. Donc nous, on va les accompagner à créer en fait des choses assez sympas à ce niveau-là. Soit c'est nous qui faisons des diagnostics de territoire. On va voir, on va aller questionner les habitants, les structures associatives pour savoir s'il y a des manquements, que ce soit en termes de commerce, en termes d'activité économique, et on va accompagner à formaliser tout ça.
Le timbre de Maurepas, c'est l'un des projets qui est collaboratif et que vous avez accompagné. Il faut commencer par resituer les lieux parce qu'on n'est pas dans le cœur du quartier Maurepas. On est un peu éloigné de la place du Gros Chêne qui est bien connue. On est donc dans les locaux d'un ancien bureau de poste, mais il faut le chercher pour le trouver.
Il faut le chercher pour le trouver, exactement. Et c'est vrai que ceux qui connaissent La Poste, venez encore d'ailleurs, on a appelé le livre La Poste à 100 mètres parce que c'était un peu le truc qu'on disait à tout le monde.
Le running gag.
Exactement. Tout le monde cherchait le timbre ou pas d'ailleurs, ou La Poste qui a déménagé à 100 mètres de là. Donc c'était assez drôle. C'est un lieu du coup assez typique. En fait, il y avait une dalle, comme il en existe pas mal dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires, une grosse dalle où vous imaginez un Intermarché. Il y avait un Trocabi à l'époque qui avait déménagé un petit peu plus loin, qui n'est plus aujourd'hui. Il y avait une poste, il y avait un cabinet photographique, pardon. Il y avait toutes ces choses-là qui font vivre un peu le quartier. Et tout ça a été bougé, soit quelques mètres plus loin, soit totalement déménagé dans une autre partie du quartier de Maurepas. Et là, on est vraiment sur ce qu'on appelle le guest, donc un endroit assez reconnu en tout cas par les personnes qui l'habitent depuis longtemps. Et c'était un endroit où il y avait pas mal d'activités, notamment associatives. Et en fait, c'était un lieu de vie, un lieu de passage entre l'école des Gantelles derrière et une place qui a été totalement rénovée aujourd'hui, qui s'appelle la place Aubrac, donc à deux pas du nouveau métro maintenant. Et du coup, effectivement, il fallait connaître un petit peu pour trouver ce lieu. Mais les activités qui ont pu occuper le lieu ont fait qu'il y a eu une ouverture et de fil en aiguille, les personnes ont pu
l'identifier
et l'identifier exactement.
Il faut dire que donc ce bout de quartier-là est concerné par une opération de rénovation urbaine. Vous avez donc disposé d'une surface de 240 mètres carrés mandatée pour animer ce projet par l'aménageur Territoire Public. Et donc l'occupation qui dès le départ était prévue pour être transitoire avant des travaux sur ce secteur, eh bien l'occupation elle a duré 33 mois à partir du printemps 2022. Ambiance.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
Vous êtes passé dans le coin, vous avez vu de la lumière.
Oui.
Et vous vous êtes dit, je vais aller manger.
Voilà.
Et bien c'est une bonne idée.
Et comment je fais pour passer la dame?
Eh bien écoutez, le mieux, je pense que celle-là va être bien adaptée. Vous êtes le premier à arriver.
Ah.
Est-ce qu'elle va être un bon...
Eh bien justement, je vais voir.
Vous testez, sinon peut-être ici ce sera mieux.
Qui sont les acteurs qui ont fait vivre ce lieu? Ils étaient 9 colocataires, on les présente comme ça.
C'est ça, ils étaient neufs, en tout cas le noyau dur qui habitait, on les appelle les colocs parce qu'ils avaient comme chacun leur chambre en fait. Dans les anciens, il faut imaginer un bureau de poste comme il y en a plein, comme on retrouve partout en France, avec un espace d'accueil où il y avait un comptoir, donc ça c'était l'espace collectif, où il y avait la cuisine de la fratrie par exemple, la cantine, où venaient tous les mercredis midi des gens pour manger. Et quand on arrivait, il y avait des anciens bureaux, du coup on a installé une librairie, la librairie de l'Astrolabe, qui est venue se tester avant d'avoir sa librairie définitive, qui est très jolie d'ailleurs sur la place Aubrac, je vous invite à aller la voir. Et derrière, on a un atelier d'artistes où Aurélie Le Forestier, qui est plasticienne, a pu s'installer avec un espace de récupération où les gens pouvaient venir se servir, bricoler, faire des choses avec elle. Et derrière, il y avait tout un espace, donc anciennement la salle de poste de la Poste, donc des postiers qui, je le rappelle, étaient encore en occupation en dessous. Le centre de tri de Rennes-Nord est encore en occupation. C'est ce qui nous a permis justement de pouvoir accéder à ce lieu. Donc on les remercie encore de nous avoir prêté leur ancienne poste. Et du coup, on partageait ce lieu-là, la cuisine. C'était rigolo parce qu'il y avait un postier qui venait tous les matins. Il venait quand même boire son café alors qu'ils ont une nouvelle salle de poste en dessous. Mais il venait là et on le retrouvait. Et du coup, on se partageait cet espace pour cuisiner le mercredi midi avec la fratrie et le vendredi avec la militante Bouille. Donc, il y a une autre activité de restaurant qui fait du lien social entre les personnes qui sont sur le quartier, qui sont parfois isolées et qui ont juste envie ou besoin d'ailleurs de venir cuisiner ou de raconter un peu, se raconter à travers la cuisine. Et c'était vraiment un espace... un peu hors du temps et où il s'est passé tellement de choses. Donc il y avait les colocs vraiment qui sont venus et qui se sont installés et qui restaient de manière pérenne. Il y a aussi des gens qui sont venus de façon, soit ils étaient invités, soit ils faisaient des collaborations avec les occupants, ce qui fait qu'ils se sont aussi appropriés le lieu. Et surtout, c'était un lieu qu'on voulait le plus ouvert possible. Donc les habitants qui avaient envie d'exposer parce qu'ils faisaient un peu de peinture chez eux ou de parler de choses qui leur tenaient à cœur. Je pense notamment à Rocio, une habitante du quartier qui avait fait un petit traité sur la contraception et les règles, qui est venue exposer ses planches pendant un mois et qui a pu faire une petite activité autour des règles et de la contraception pour parler de ça aux habitants. De base, c'est un lieu qui est teinté d'artisanat et de savoir-faire, mais au fil du temps, en fait, on s'est aperçu que les habitants et les habitantes avaient besoin aussi d'un lieu assez neutre, et c'est Aurélie qui le raconte bien dans le livre. Elle raconte que ce qui était chouette avec le timbre, c'est qu'il n'était pas estampillé social ou pas estampillé, donc ça permettait aussi de se révéler, de s'ouvrir et de venir sans forcément avoir besoin de quelque chose. Mmh. Et des lieux comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a plus qu'on ne le croit, mais c'est vrai qu'il en faut limite plus, parce que ça permet, au-delà de tester son activité, ça permet aussi de venir sans prétexte. Et c'est rare aujourd'hui d'avoir des lieux où tu peux venir sans prétexte. Mmh.
Vous avez cité Aurélie, c'était la plasticienne du timbre de Maurepas. Est-ce qu'on a cité tout le monde ? On en a oublié ou pas ?
Du coup, je vais peut-être récapituler. On avait la fratrie du quartier, donc une cuisine sociale et solidaire qui travaillait avec des personnes qui avaient des troubles psychiques. Il y avait l'Astrolabe, qui est une librairie coopérative. Qui porte aussi une maison d'édition, tout à fait, qui s'appelle Argile, la maison d'édition. Et eux, ils venaient vraiment tester leur activité pour voir comment ça prenait. Ça leur permettait d'avoir déjà un petit pied sur le quartier, de bénéficier évidemment de fonciers moins chers et aussi de se faire connaître. Il y avait le café associatif qui était du coup historiquement sur la dalle, qui est revenu après avoir déménagé dans plusieurs endroits sur le quartier. Et c'est assez symbolique parce que le café est parti avec le timbre, donc il s'est éteint entre guillemets le 31 décembre comme le timbre, faute de bénévoles pour reprendre l'activité. Hervé et Catherine étaient là depuis des années et ils avaient besoin de partir. Enfin voilà, ils étaient un petit peu fatigués, mais eux ils étaient ouverts le mardi et le jeudi. Là, il y avait plutôt des personnes âgées, habituées, qui venaient anciennement au café, qui retrouvaient le café le mardi, surtout, jour de marché. En fait, c'était un lieu de passage, donc ils venaient soit avant, soit après de faire leurs courses. Et c'est vrai que c'était rigolo, parce que on voyait d'autres personnes qui côtoyaient encore d'autres personnes. Et le timbre, c'était vraiment un lieu de rencontre de gens qui ne se seraient sûrement jamais croisés. Et c'est ça qui était hyper intéressant, en tout cas à mes yeux. Il y avait les gars d'Aibro, donc les appellent les frères du coup, qui rentraient et qui sortaient. Ils ont un food truck, ils avaient leur laboratoire culinaire au timbre, donc dans un ancien bureau aussi. Et eux, ils venaient, ils sortaient et c'était rigolo parce que on les voyait avec leurs caisses comme ça de nourriture. Et souvent, on les appelait un peu les colocs qu'on voit pas trop.
De passage.
Exactement, de passage, mais ils sont là et ils sont toujours là. Et ce qui était chouette, c'est qu'il y avait ça a pris un peu de temps, mais il y avait vraiment une ambiance familiale et une ambiance très simple au final, mais de gens qui se rendaient service, qui s'appelaient aussi pour savoir comment ça va, qui se rendaient visite aussi dans leur lieu de vie, et c'était assez chouette. Et du coup, il y avait Aurélie dont on parle, qui avait son atelier derrière. Elle avait son grand atelier où elle pouvait vivre un peu de sa pratique. Son objectif, c'est de vivre aussi de sa pratique artistique personnelle, mais elle faisait aussi des projets avec des structures du quartier, avec des structures aussi brétiliennes. Et elle, son atelier, c'était vraiment, c'est devenu un peu sa maison, et c'était, je pouvais beaucoup me reposer sur elle, parce que moi, j'étais pas là tous les jours, et elle avait vraiment le sens de l'accueil, et c'est devenu un peu la régisseuse du lieu. Et enfin, il y avait donc la Mini Tambouille, on en a parlé, qui est arrivée un peu plus tard pour faire de la cuisine, des ateliers cuisine autour des envies des habitants. Et la Loupiote, qui avait une association autour du jardin, autour des plantes, et qui, elle, proposait donc des ateliers, des discussions justement autour des plantes médicinales, des plantes aromatiques, qui faisait aussi beaucoup de tisanes et qui ouvrait la parole autour de sujets tels que la puissance féminine, ce genre de choses que... C'était rigolo parce que quand on parlait de ça et qu'il y avait le café et les membres du café à côté, ça, c'était des mondes qui s'entrechoquaient, mais chacun avec leur histoire et leur parcours, et le fait d'être ensemble au sein de ce lieu, ça faisait vraiment quelque chose d'intéressant, et c'est pour ça que le timbre, quand on nous demande de l'expliquer, faut expliquer tout et tout le monde, sinon on peut pas le comprendre, et faut le vivre.
La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces projets continuent à vivre après la fin du timbre de Maurepas. Hormis le café associatif, vous venez de le dire, qui a pris fin. Le clap de fin de ce projet, là, le timbre de Maurepas, c'était en décembre 2023. Vous avez décidé de prolonger l'expérience en la racontant dans un ouvrage de 64 pages. Le timbre, une occupation temporaire à Maurepas. La poste, c'est à 100 mètres. Vous vous êtes entouré de professionnels pour réaliser ce livre-là. Vous nous dites lesquels ?
Oui, bien sûr. Du coup, cette belle expérience, on ne voulait pas qu'elle reste dans les cartons et qu'elle reste surtout dans les têtes de celles et ceux qui l'avaient vue et vécue. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré de professionnels. On a eu la chance d'avoir des professionnels autour de nous pour créer cet ouvrage on est hyper contents parce qu'en plus il rend bien. On a été accompagnés d'une super graphiste qui s'appelle Anne-Laure Bombay et d'une chouette structure qui s'appelle les Trois Ours Médias, qui est toute neuve pour le coup et qu'on connaît parce qu'il y a des personnes au sein de ce média qui appartenaient à la Grenouille à Grande Bouche.
La Grenouille à Grande Bouche, c'était un restaurant et une revue participative installée dans le quartier du Blône, aussi sur une occupation temporaire d'ailleurs.
Tout à fait. On aimait manger là-bas, on aimait feuilleter la revue aussi, et qui a été accompagnée par Tag il y a plusieurs années maintenant. Donc c'est vrai, de créer tous ces liens aussi. On voit la force des structures ESS sur Rennes, et on a la chance d'avoir à Rennes une politique publique assez chouette aussi sur l'utilisation du bâti et des locaux. On sait qu'il une grosse tension foncière, mais on sait aussi que la ville est prête à faire à nous proposer des locaux, et j'espère que l'expérience du timbre fera qu'on pourra en bénéficier encore plus et qu'on pourra voir fleurir des timbres bis un peu partout. Et l'idée dans cet ouvrage, c'est vraiment, alors il y a une partie récit sensible où là on va vraiment voir un peu et lire ce qui s'est passé au sein du timbre et comment est-ce que ça a été vécu par chaque occupant. Mais on a vraiment voulu aussi avoir une petite prise de hauteur politique par deux élus qui connaissent bien le quartier, Marion Deniaux et Priscilla Zamor, qui apportent aussi une vision un peu plus structurante de ce que c'est que l'occupation temporaire, notamment en quartier politique de la ville. Et on a toute une partie un peu plaidoyer, clé de lecture, facteur de réussite et frein aussi. On n'a pas voulu rendre les choses trop lisses. On a voulu être en tout cas le plus sincère possible dans ce livre. On voulait aussi montrer ce qui a été un peu plus compliqué pour qu'on puisse potentiellement se saisir d'autres locaux, d'autres bâtis et avoir ça en tête. Donc ça peut paraître tout bête, mais c'est des choses qui fonctionnent, et notamment le rôle un peu clé d'avoir quelqu'un qui coordonne et qui anime tout ça, qui soit ni étiqueté aménageur et institutionnel, et qui soit entre deux en fait, qui soit pas non plus au quotidien là, ou alors au quotidien là mais avec une autre casquette, et ce qui fait que ça peut, c'est vraiment un rôle de tampon, et c'est important d'avoir un rôle de tampon parce qu'on l'a vu au sein du timbre, c'est des mondes qui s'entrechoquent et il n'y a pas forcément les mêmes discours, il n'y a pas forcément les mêmes mots, et on a des réalités totalement différentes, et c'est important de comprendre les uns et les autres pour faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde.
Il faut dire que ce modèle-là, il se développe depuis plusieurs années à Rennes, d'avoir donc des occupations temporaires de lieux qui sont ensuite amenés à être transformés et réhabilités. On peut citer par exemple le BAM, le bâtiment à modeler, qui est installé dans l'ancien Antipode dans le quartier Clenay, qui accueille toujours des occupants. L'idée avec ce livre, c'est donc de proposer à la fois un récit des occupants, mais surtout de prendre de la hauteur sur l'intérêt d'une telle expérience. Vous parlez d'inconvénients, on imagine que l'inconvénient majeur, c'est l'instabilité qui est propre en fait au contrat qui vous lie à l'aménageur et à Rennes Métropole.
C'est ça, c'est une instabilité, mais qu'on connaît dès le départ. Et d'ailleurs, ce qu'on dit, enfin vraiment un des facteurs, une des clés pour nous, c'est d'être au clair sur la durée de l'occupation dès le départ, même si parfois on peut être tenté les uns les autres de vouloir un peu plus, de tirer un peu la couverture, mais c'est important d'avoir une date de fin, déjà pour les personnes qui occupent, parce qu'elles peuvent plus facilement se projeter sur la suite. Mais c'est vrai que vous citiez le BAM, mais c'est juste, en fait, on voit que, en tout cas les expériences qu'on a pu aller interroger, quelles que soient les structures qui se saisissent de lieux comme ça, en fait, ça donne des choses hyper chouettes. Enfin, le BAM, c'est un lieu génial où il y a, pour le coup, ils ont vraiment réussi à ce que le lieu il soit vraiment traversé par le quartier, par les habitants, et c'est hyper chouette parce qu'il y a plein d'initiatives qui naissent de ça. Et c'est vrai que nous, le fait qu'on soit un peu en plus en dehors, alors on était dans le quartier, mais on n'était pas forcément très visible, on a dû aussi imaginer des choses pour pas forcément créer une programmation. Au début, on voulait faire des trucs, programmation limite jour après jour, mais en fait, l'idée, c'était quand même de proposer des locaux à des personnes qui avaient besoin de locaux pour travailler, et leur activité principale, c'était pas de créer de la programmation sur le quartier, même si c'était un pan de leur activité. Leur activité principale, c'était de rester, en fait, d'être et de rester sur le quartier, et c'était important pour eux de créer, en tout cas sur le quartier. Et donc ça, pareil, il faut ajuster, et il faut vraiment être au clair sur ce qu'on attend des personnes, et faut pas chercher à forcément que ce soit hyper ouvert, accessible dès le départ, parce que ça prend du temps, et plus on prend du temps et plus on est patient avec ça, plus le lieu in fine il devient intéressant.
J'en profite pour glisser au passage, on a dit que la plupart des projets étaient toujours en activité. Il y a quand même donc Aurélie, la plasticienne du groupe, qui cherche toujours un local pour son activité d'artiste plasticienne. On en glisse un mot ici, s'il y a des auditeurs qui ont un local, voilà, qui sert à rien, dans le quartier Maurepa, idéalement. Et donc cet ouvrage, il est actuellement en pré-vente dans le cadre d'une campagne de financement participatif sur la plateforme kisskissbankbank.com. Le tarif pour le livre seul, c'est 25 €, et la campagne, elle est en cours jusqu'au 19 mars. Combien vous éditez est-ce qu'on pourra le trouver ailleurs après la prévente? Ça marche comment?
Alors, c'est un livre qu'on a voulu le tirer à 500 exemplaires. On a déjà pu vendre une partie, en tout cas, on a proposé une partie à la collectivité. Là, l'idée sur cette plateforme, c'est de vendre 100 exemplaires. Là, on a un peu plus de la moitié. C'est pour couvrir en fait les frais liés à sa conception, parce que y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce projet. Et il sera peu disponible en librairie, et on va pas retirer. Nous, l'idée, c'est qu'on, enfin, on veut pas que ça finisse en cale-porte ou enfin des choses comme ça.
D'en avoir trop sur les bras.
C'est
aussi.
Ça, on veut pas en avoir trop sur les bras. On sait bien que c'est quelque chose qui, de prime abord, va pas intéresser entre guillemets. Tout le monde, mais en fait, je l'ai relu encore hier et je l'ai déjà relu plein de fois. Mais le fait de le lire en livre, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une super chouette histoire et qu'on prend plaisir à la lire. Et c'est beau, juste c'est beau, et c'est intéressant de voir comment au sein de Rennes, il y a des lieux comme ça qui se transforment. Il y a des gens aussi, c'est raconter les gens au-delà des lieux. Et c'est aussi pour les personnes qui l'ont traversé et celles qui n'ont pas pu y aller, une occasion de découvrir tous les bénéfices qu'on peut tirer, en tout cas, de ces occupations. Et du coup, ce sera peu vendu en librairie, même si on en laissera quelques exemplaires, notamment à l'Astrolabe et à l'Établi des mots au Quadri, en dessous du Quadri. En tout cas, on a voulu raconter cette histoire. On sait qu'elle ne sera pas parfaite, comme l'occupation n'a pas été parfaite, mais c'est aussi chouette de pouvoir rendre compte de choses simples et moins simples, d'ailleurs. Mais,
et d'une expérience collective. On peut ajouter que des cartes postales et des affiches sérigraphiées signées de l'illustratrice rennaise Valérie Soriano sont également proposées, toujours sur la plateforme de financement participatif kisskissbankbank.com. Et c'est le moment où je vous représente Alexine Malawi. Vous êtes chargée de mission révélateur chez TAG 35. On redonne le titre de l'ouvrage dont on a parlé, Le timbre, une occupation temporaire à Maurepas. 64 pages pour revivre cette expérience menée dans le quartier de Maurepas jusqu'en décembre 2023. Merci beaucoup.
Merci.
De Bibi Club, c'était une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann Barbotin, notre programmateur musical à la radio, et c'est un extrait d'un album à venir qui va sortir au début du mois de mai, Feu de Garde. Ce sera le deuxième disque de ce duo pop canadien formé par Adèle Trottier-Rivard et Nicolas Basque. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale, et on poursuit avec la recommandation du jour. À chaque fois, des petits conseils d'événements à vivre près de chez vous, aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast et de documentaire. Aujourd'hui, on annonce la 11e édition de Réel, le festival du cinéma documentaire et des droits des femmes. La première projection, c'était le week-end dernier, mais le temps fort, c'est là, samedi 9 et dimanche 10 mars, un événement qui est organisé par Comptoir du Doc avec Les Champs Libres et la ville de Rennes.
On était tellement fatigués et il y avait beaucoup de nos collègues qui n'en pouvaient plus, moralement et financièrement. quand on disait résistance, même moi, quand j'entendais ce mot-là, ça me donnait encore de la force. J'ai dit, mon Dieu, je vais résister.
4 des 5 projections prévues, elles se passent au Champ Libre. Des documentaires qui nous emmènent d'un palace parisien aux côtés de femmes de ménage en grève au sauna sacré d'Estonie, en passant par l'Inde, où vivent 2 sœurs rescapées d'un pogrom anti-musulman, et puis enfin en France, avec des cascadeuses pour parler de la violence portée à l'écran. D'ailleurs, ce dernier documentaire, Cascadeuse, il est visible sur la plateforme arte.tv. La soirée du samedi 9 mars, c'est quant à elle une carte blanche laissée à la Cinémathèque de Bretagne et à l'association L'Œil d'Oudac. 3 courts-métrages combattants et pleins de poésie seront projetés à partir de 20h. Le détail des horaires et des tarifs est à retrouver en ligne sur comptoirdudoc.org. Et avant de se quitter, on retrouve la CIMAD de Rennes pour sa chronique bimensuelle. Bonjour Colline.
Bonjour.
Colline, tu es intervenante juridique pour la CIMAD, cette association de soutien aux personnes exilées, qui intervient donc au CRA, le centre de rétention administrative de Rennes. Toutes les 2 semaines, avec l'équipe de la CIMAD, vous nous donnez à voir ce qu'il se passe entre les murs du centre de rétention, aujourd'hui sous forme de chronique.
Jeudi 29 février 2024, donc la semaine dernière, 58 personnes géorgiennes ont été expulsées de France via un charter. Un avion spécialement affrété par l'agence européenne chargée du contrôle des frontières de l'Union européenne, Frontex. Un avion affrété à un coût astronomique pour expulser massivement et plus efficacement des personnes étrangères à l'abri de tout regard. Parti de Tbilissi, cet avion de la Georgian Airways a d'abord fait une escale à l'aéroport Metz-Nancy, avant de se poser à l'aéroport de Saint-Jacques-de-la-Lande, à côté de Rennes. Il est ensuite reparti vers la Géorgie, à 15h50, avec 58 personnes à bord, expulsées de force, et près de 80 policiers. À Rennes, 12 personnes ont été arrêtées, dont une famille avec un enfant de 5 ans. D'autres interpellations ont eu lieu à Saint-Brieuc, Vannes et Lorient. Plusieurs enfants faisaient partie des expulsés, mais nous ne connaissons pas leur nombre exact. La rumeur du charter se propage le mercredi 26 février en fin de journée. Rumeur qui se confirme lorsqu'un couple qui était assigné à résidence se fait arrêter par la police aux frontières lors de leur pointage à 17h. Un second couple est arrêté dans les mêmes conditions et emmené au centre de rétention administrative de Rennes. Vers 19h ce mercredi, les associations qui étaient en lien avec ces familles perdent le contact et s'en inquiètent. Au total, ce sont 9 personnes qui seront enfermées au CRA, une nuit avant leur expulsion. Elles ont rejoint un homme géorgien qui y était déjà enfermé depuis plusieurs jours. Des enfermements de dernière minute alors que les placements au CRA étaient gelés depuis quelques temps en vue de la fermeture plusieurs semaines pour travaux. Des placements dits de confort et des enfermements abusifs dans l'unique objectif pour l'administration d'avoir ces personnes sous la main au plus près de l'aéroport pour faciliter leur expulsion le lendemain. Ces interpellations et enfermements ne font l'objet d'aucun contrôle. Les audiences auprès du juge des libertés et de la détention n'intervenant que 48 heures après le placement au CRA. 3 femmes, dont une âgée de 76 ans, faisaient partie de ces 9 Géorgiens emmenés au CRA de Rennes alors qu'il n'y avait pas eu de placement de femmes depuis plus d'un an. C'est dire à quel point la préfecture d'Ille-et-Vilaine est prête à tout pour faire fonctionner la machine à expulser et répondre à la politique du chiffre toujours plus absurde du ministère de l'Intérieur. Le jour du décollage de cet avion de la honte, une 30aine de militants s'est rassemblée devant l'aéroport pour protester contre la violence et l'absurdité de ces expulsions et demander la régularisation de tous les sans-papiers. Les policiers ont empêché l'accès à l'aéroport, mais une partie de la route a pu être bloquée. Vers 13h20, l'avion se pose sur le tarmac de l'aéroport et le défilé des escortes se met en place. Au total, 10 personnes ont été expulsées depuis le CRA de Rennes, dont 3 femmes et 2 pères seuls. Il n'y avait pas eu de charter au départ de Rennes depuis 2019, quand 33 personnes géorgiennes avaient été arrêtées dans toute la région Bretagne. La France s'est félicitée de l'organisation de cette nouvelle expulsion massive sur le site de l'ambassade en Géorgie, expliquant qu'elle prévoit d'augmenter en 2024 le nombre de reconduites vers ce pays. La CIMAD dénonce la politique du chiffre absurde et inhumaine de l'État français. Nous appelons à un changement de paradigme des politiques migratoires garantissant le respect des droits et des libertés fondamentales et à la fermeture de tous les centres de rétention.
émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.